La cashier, allez messieurs, on y va. On est à la page 51. On du retard en ce moment, hein, c'est bon. Alors, on est donc dans le Asiachir. Dans l'Asiachir, on a déjà fait les premiers versets. On est arrivé au verset qui commence par Hachem Ishmilchama, Hachem Shemo. Donc, je sais pas quelle, voilà, c'est première ligne de la page
51.
Première ligne de la page 51. Donc, je vais faire un récapitulatif de ce qu'on a expliqué déjà la semaine dernière sur l'Asiachir. Déjà, on a expliqué que l'Asiachir, on allait l'expliquer selon le commentaire de Rashi et du Mechilta, qui sont les commentaires principaux qu'on connaît sur l'Asiachir. Et que ces commentaires nous permettent de comprendre que l'Asiachir, on peut pas simplement le traduire, on est obligé de l'expliquer. Donc, la semaine dernière, on a étudié les quelques premiers versets. On a pu voir déjà au travers des commentaires de Rashi et du Mechilta qu'en fait, dans l'Asiachir, on ne parlait pas simplement du passé, mais on parlait beaucoup du futur. Vous vous rappelez, on a dit que Asiachir, par exemple, c'est « Il chantera, Is Moshe et l'Evné Israël ». Il y a plusieurs allusions comme ça qui nous montraient que dans l'Asiachir, on ne parle pas seulement du passé, mais on parle également du futur, d'où la Gemara nous dit qu'on a ici une allusion à la résurrection des morts. Qu'un jour, les morts vont se relever et que ils vont continuer à chanter les mêmes chansons qu'ils connaissaient avant pour louer le nom d'Akadosh Baruch Hu. On a expliqué également, la semaine dernière, que sous Zverovo et Mavayam, que psychologiquement, c'était très important pour Akadosh Baruch Hu de montrer au Bnei Israël, les Égyptiens, morts sur la plage. D'accord? Pourquoi c'est très important? Bien qu'Akadosh Baruch Hu, en général, ne veut pas dégrader et ne veut pas dégrader les créatures. Là, dans ce cas-là, il était obligé de le faire. S'il vous plaît. Là, dans ce cas-là, Kadosh Baruch Hu était obligé de le faire, parce qu'on a expliqué que jusqu'à une semaine après la sortie d'Égypte, les Bnei Israël avaient toujours l'angoisse de revoir un jour les Égyptiens. On avait donné différents exemples, et on a vu que Kadosh Baruch Hu, pour ça, le visuel était très important, il avait besoin de nous montrer les Égyptiens morts. Et là, depuis là, on dit que les Bnei Israël se sont calmés, ils étaient rassurés, ils étaient sûrs que tout allait bien. Ensuite, on avait terminé la semaine dernière en disant que Zekeli Vandeu et le Kevir Menou, ça veut dire, on dit que au moment où on a traversé la mer Rouge, il y a eu une shrina extraordinaire, à tel point que la Gemara nous dit que Ra'ata Shifra Alayam, une simple servante, a vu sur la mer ce que le prophète Ézéchiel ne verra pas de génération plus tard. Pourquoi? Puisqu'il y avait une shrina exceptionnelle à la traversée de la mer Rouge, et c'est pour ça que la traversée de la mer Rouge, c'est une grande ségoula, enfin, c'est un moment très particulier. C'est une shrina qui s'est développée, qui ne s'est jamais développée après. On n'a jamais eu la présence divine aussi forte qu'à ce moment-là. Pourquoi? Ça, je l'ai pas expliqué la semaine dernière. Parce qu'on explique en Kabbalah, en Chassidut, que dans le monde, il y a ce qu'on appelle Alma Deit Kassia et Alma Deit Galia. Il y a le monde dévoilé et le monde caché. Ça veut dire quoi? La Gemara nous dit que toutes les créatures qui se trouvent sur la terre se trouvent dans la mer. Par exemple, vous prenez un animal, prenez un lion. On va retrouver un animal qui a à peu près les mêmes caractéristiques dans la mer. D'accord? Par exemple, peu importe le nom. Je sais pas ce que c'est un lion de mer, mais peu importe le nom. Mais c'est la même chose, c'est la même caractéristique qu'un lion. D'accord.
À la même tête.
Alors, on l'a appelé comme ça. La Gemara nous dit que, à part deux animaux, il y a deux... Non, il y a un animal, il y a un poisson ou un animal dans la mer qui a les mêmes caractéristiques que l'éléphant. Ça veut pas dire qu'il est aussi gros. C'est-à-dire qu'il y a les mêmes manières de vivre, les mêmes manières, etc.
C'est la tête d'un cheval.
Alors, mais il a pas les et donc, entendus. Sauf que c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre... Bon, on va pas s'écarter du sujet. C'est quoi la différence entre la mer et la terre? C'est que dans la terre, on voit, c'est un animal, je vois tout ce qui se passe. Alors que dans la mer, quand je vais à la mer, qu'est-ce que je vois? Je vois de l'eau.
C'est tranquille.
Et que celui qui descend pas en dessous, il se doute pas qu'il y a toute une vie en dessous. Donc c'est quoi la différence entre la terre et la mer? C'est que ce qui est dans la mer est caché, ce qui est dans la terre est dévoilé. Or, quand on nous dit que...
Sauf deux animaux, lesquels c'est?
Il y a un c'est la belette, et l'autre c'est un deuxième animal. Enfin, deux animaux très précis qu'avec moi.
Il n'y a pas d'homme dans la mer.
Il y a un animal qui a le même caractéristique que l'homme.
Tu parles d'un animal, mais l'homme, il est...
On parle des animaux, principalement.
Ah,
bon, c'est des animaux. Alors, c'est une image.
D'accord.
On retrouve des plantes, on retrouve tout, quoi. On retrouve beaucoup de choses. On est d'accord? Il y a des bismuths aussi.
Sous l'eau.
Alors, c'est quoi le chidouche de la traversée de la mer Rouge? Le chidouche de la traversée de la mer Rouge, c'est que la mer s'est ouverte. C'est-à-dire quoi la mer s'est ouverte? Ça veut dire que ce qui était caché est devenu dévoilé. Et que ça, en vérité, spirituellement, ça s'est passé comme ça. C'est que des choses qui normalement étaient cachées, et que nous on voit pas, et bien là tout le monde s'est mis à voir des choses qui étaient cachées.
Les Égyptiens qui étaient dévoilés, ils sont devenus cachés.
Non, pas que les... Je parle de la shrina, c'est-à-dire des choses... qui sont en général dans les coulisses, qu'il n'y a que les tzadikim qui voient, qui sont cachés. C'est comme dans la mer, moi, celui qui descend pas, il sait pas ce qui se passe. Et ben là, à ce moment-là, ça s'est dévoilé, ça veut dire que la mer s'est ouverte, ça veut dire que des simples personnes étaient capables de voir à ce moment-là des choses que normalement, il y avait seulement les grands tzadikim qui pouvaient voir. Et c'est pour ça que les Bnei Israël ont dit, bien sûr, c'est l'image. C'est ça que les Bnei Israël ont dit, Zékeli va nous dire, mais voilà, Zékeli, il est là, Dieu. Ils l'ont vu, c'est pas quelque chose qu'on a appris, qu'on...
C'est pas les enfants qui étaient enterrés, qui vivaient dans la terre pendant qu'il y avait des
décrets. Zékeli, vous, la Gemara a dit que c'est les enfants qui ont dit ça. C'est Tinokot. C'est les enfants qui ont dit, mais les voilà, il est là.
C'est les enfants qui étaient eux-mêmes enterrés.
Les enfants vivants. Non, les enfants vivants.
Ah,
les
enfants qui ont
oui, bon. Les enfants, il y a aussi les enfants qui sont morts, mais on dit que c'est les enfants qui ont grandi en Égypte, c'est écrit que M. Ikiru Trila.
C'est les enfants qui ont été protégés en vivant dans la terre pendant les deux temps que...
Est-ce que c'est pour ça qu'ils l'ont reconnu en premier?
Ouais.
C'est peut-être. En tout cas, c'est écrit dans la Gemara, c'est écrit M. Ikiru Trila. C'est écrit que eux, ils l'ont reconnu en premier.
Les enfants.
Parce que c'est lui qui, comme il les a protégés pendant cette période-là, qui les a nourris toute la chaîne, les anges et tout ça. C'est
un commentaire, bon, c'est un commentaire sur la Gemara peut-être, pas la Gemara ça. C'est écrit Emi Kiru Trila. Enfin, de mémoire. Hein. C'est-à-dire que c'est eux qui l'ont reconnu en premier. Ah, ça c'est écrit que les enfants ont reconnu Akadosh Baruch Hu en premier. C'est ces enfants qui sont les deux. Alors maintenant, donc on est au pasouk Hashem Ishmil Chama Hashem Shimon. Voilà, on s'est arrêté ici. Markevot Paro Vechelo. Markevot Paro Vechelo. Les chars de Paro et son armée. Yara Vayam, Dieu a jeté dans la mer. Alors voilà comment Rashi explique ça. Rashi explique qu'on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il se comporte toujours Mida Keneged Mida. Ça veut dire quoi Mida Keneged Mida? Ça veut dire
mesure pour mesure.
Or, qu'est-ce qu'avait dit Paro? Il avait dit tous les enfants, on les prend et qu'est-ce qu'on fait avec les garçons?
On les noie.
D'accord? Alors, ça veut dire quoi, on les noie? Ça veut dire que...
Pas les enfants, les garçons. Seulement.
Les garçons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va les noyer, on va les tuer. Alors, Akadosh Baruch Hu, tu as voulu noyer les enfants. Nous aussi, on va te tuer en te noyant. C'est pour ça que... Numéro 1, qu'est-ce qui s'est passé? Les meilleurs des soldats de Paro, Toubeou, Biyamsouf, se sont noyés dans la mer comme le plus simple des soldats. Mais... Pour retenir ce qu'on veut dire ici, Tehomot Yirashimu. Les abîmes les ont recouverts. De la même manière que Paro a pris les enfants, il les a jetés dans l'eau. Il a dit comme ça ils sont couverts par l'eau et comme ça ils n'existent plus. Et ben, de la même manière, Tehomot, c'est quoi Tehom en hébreu? L'abîme. Yirashimu, on a le mot Kisui. Kisui en hébreu, ça veut dire quoi? Recouvrir. Kisui roche, comme une kippa, c'est pas un Kisui roche, une couverture. Et donc Tehomot, l'abîme, Yirashimu les ont recouverts. Yardou Vimtsolot, Kemo Aven. À part ça, c'est Rashi qui explique, il dit qu'on nous apprend que la mer, c'est comme si elle était déjà pas assez profonde, Dieu a fait un miracle que la mer s'est encore plus ouverte, comme ça ils descendent encore plus profond. Comme si c'était pas assez profond comme ça.
Ouais, une grosse bulle à la surface.
Et c'est pour ça qu'on dit, Yardou Vimtsolot. Ils sont descendus, Vimtsolot, c'est-à-dire au fin fond de la mer. C'est pas au fin fond de la mer, ça veut dire qu'ils sont partis encore plus profond que le fond de la mer. Dieu a fait un miracle et c'est encore ouvert. Kemo Aven comme une pierre. Alors, là c'est quoi le miracle? Qui sont descendus comme une pierre? Là c'est un miracle, parce que normalement, un corps, ça flotte. On est d'accord, normalement le corps ça flotte.
Ils descendent,
ouais. Alors d'accord.
Quoi, parce qu'ils étaient sur la...
Ils sont arrivés en bas.
Oui, mais...
Elle s'est ouverte là.
Alors, elle s'est ouverte.
Ils marchaient bien, et en bas de
non,
quoi?
Non, ils marchaient pas justement. Alors Rachid pose la question, il dit mais normalement un corps
ils
ça flotte.
En bateau,
normalement un corps ça flotte. D'accord? Alors c'est vrai qu'il y a le poids du char, qu'on a expliqué la semaine dernière, qu'ils sont restés physiquement attachés au char. Mais quand même, à un certain moment, ils peuvent bien se débattre, et je veux dire, bon, normalement, ça doit reflotter, c'est normal, c'est la loi. Alors, Rachid explique qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, que les corps des Égyptiens n'arrêtaient pas de monter et descendre. C'était la, comme on l'a dit hier, la semaine dernière, la machine à laver. Ils n'arrêtaient pas de tourner. C'est pour ça que d'un côté, des fois, on nous dit que, après, on dira qu'ils flottaient. Et là, on dit, par exemple, qu'ils sont descendus comme une pierre. Une pierre, par définition, comme c'est lourd, ça tombe. D'accord? Alors qu'un corps, ça flotte. Normalement, ils auraient dû flotter. Il y a de l'air dans leur corps.
Oui, mais avant qu'un noyer remonte, ben d'abord il coule. Parce que ça fait ça.
Oui. Mais ils devaient remonter. Là on dit non, ils sont descendus devant tout au fond.
Ouais, c'est du Niagara là.
D'accord, c'est pas normal. Comment ça se passe du présage quand une personne se noie? Il descend pas, il tombe pas jusqu'au fond.
Oui, mais là, l'eau elle était
non, mais attendez, quand une personne du présage se noie, il tombe jamais jusqu'au fond.
Non.
Jamais.
Non.
Oui, d'accord. Non, mais ça veut dire, non, avant de monter à la surface, il va d'abord rester quelques temps dans l'eau, mais jamais il tombe au fond. Il peut pas tomber au fond.
Quand il s'est rempli d'eau,
comment ça marche?
Il est rempli d'eau, il tombe.
D'accord, oui, mais avant, comment ça se passe? Quand tu... Enfin, Dieu préserve, je veux juste comprendre. quand une personne il se noie.
Il reste entre deux eaux.
Bon, très bien. Ok, d'accord. Donc on est d'accord. Donc c'est pas normal ce que tu fais avec les Égyptiens.
C'est
Rachid qui explique.
Alors,
pourquoi on nous dit. Maintenant, là on a le.
Il va commencer à se décomposer, il prend un volume plus important.
Alors, il y a le Midrash qui pose la question, il dit pourquoi on dit qu'ils sont tombés comme une pierre. C'est quoi le message de la pierre? Pourquoi on nous parle de la pierre? Alors, il y a deux réponses dans le Midrash. Première réponse, le Midrash donne, on dit que Pharo avait dit aux Égyptiens, il leur avait dit « Ur item ala ovnaim ». Il leur a dit « Quand les enfants vont naître, vous allez voir ala ovnaim ». Donc, ovnaim, c'est une sorte de pierre, enfin, c'est la table dans laquelle les femmes accouchaient. On l'appelle Ovnaïm. Dans le mot Ovnaïm, ça ressemble au mot Even. Donc il dit, vous êtes partis embêter les Bnei Israël sur le Ovnaïm. Nous, on va vous punir. Vous allez tomber dans l'eau comme Even, comme une pierre. Ovnaïm, Even. C'est une première réponse. Une deuxième réponse qui donne le Midrash, il dit qu'en fait, il y a eu différentes catégories d'Égyptiens. Il y avait des bons Égyptiens et il y avait des mauvais Égyptiens. Donc, il y avait des Égyptiens qui ont suivi Paro, mais qui n'étaient pas trop dans le coup. Ces Égyptiens, comment ils sont morts? Ces Égyptiens, ils étaient secoués dans l'eau comme de la paille. C'est-à-dire que bon, c'était soft. Mais ceux qui, Mifrar Shalishav, ceux qu'on vient de dire dans le pastouk avant, les meilleurs des soldats, c'est-à-dire ceux qui ont fait du zèle, ceux-là, ils sont tombés dans l'eau comme une pierre, ça veut dire qu'ils bougeaient dans tous les sens. Ça, c'est une deuxième réponse comme le Midrash. D'accord? Troisième réponse comme le Midrash, il dit pourquoi on nous parle d'une pierre ici? Puisque comme les Pharo et l'Égypte ont endurci leur cœur comme une pierre, alors il dit vous avez endurci votre cœur comme une pierre, on va vous jeter comme des pierres. Bon, c'est du Midrash tout ça. Hein.
Mais vous... Qui
a-t-il eu des justes?
Oh, malheureusement, bien heureusement, tu veux dire.
Oui. Ouais. Non, je dis malheureusement, ce qu'ont fait les Allemands. Parmi les Allemands, il y a eu quelques personnes qui étaient
ils ont reçu du courrier.
Pendant les dernières macottes, on raconte, on dit que Ayaret, Barachem, plusieurs fois, on dit que celui qui craignait Dieu, il a ramené ses animaux à la maison, il a fait ci, il a fait ça. Mais a priori. Pharo a mis le paquet dans la mer Rouge. Tous ceux qui savaient se battre, ils les ont amenés.
C'est l'argument de Myriam. Son père avait dit que quand son père, Myriam, il n'a pas voulu laisser séparer de sa femme,
oui.
Il a dit ton décret à toi est pire que celui de Pharo,
oui.
Que peut-être Pharo n'a pas de suivi dans son peuple.
Exactement. Donc probablement, c'est qu'il a suivi. Oui, mais bon, il a été suivi par la majorité de son peuple quand même.
C'est sa femme qui était cette
quête. Bien sûr.
Sa femme égyptienne.
Bien sûr. Sa femme juive. C'était juive, les sages-femmes.
Là, il y avait bien plein que des juifs.
Oui, d'accord, mais bon, les sages-femmes Chifra et Poua, c'est la référence. Enfin, c'était les sages-femmes juives qui sont mis en danger. C'est pour ça que beaucoup d'associations d'aide aux femmes qui ont accouché s'appellent aujourd'hui Chifra et Poua. C'est très bon nom.
Elles manquent pas de Poua.
Poua, c'est un très joli prénom.
Yemincha Hashem, Nedari Bakoach, Yemincha Hashem Tir Asoye. Bon, alors on continue. Alors, là maintenant c'est extraordinaire comment on répète deux fois le mot Yemincha. Yemin en hébreu, ça veut dire quoi? C'est-à-dire la main droite. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec la main droite? La main droite, ça correspond à quoi chez l'homme?
La
force.
Oui, la force, ça correspond à donner, oui.
La tzedaka,
oui, donc donner, oui. Après encore, la droiture. C'est bon?
Est-ce qu'on a toujours donné avec la main
la rigueur.
Oui, bien sûr.
Non, ouais. C'est la gauche, la rigueur.
Le gaucher avec la main gauche. Parce que c'est la main gauche et sa main droite.
La rigueur.
La main droite, c'est la rigueur? Non, c'est la main gauche, la rigueur. Qu'est-ce qu'on fait avec la main droite? Non, mais c'est un bon point. Il dit la main droite, c'est aussi la force. Par exemple, quelqu'un qui veut mettre une claque, il donne une claque avec quelle main? La main droite ou la main gauche?
Ça dépend.
Moi, la main gauche.
Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on... C'est-à-dire qu'on donne pas, qu'on fait pas que des bonnes choses avec la main droite. Ouais, on fait, c'est la main la plus forte. Alors, le Midrash explique comme ça. Il dit pourquoi c'est dit deux fois ici le mot Yemincha? Il dit comme ça. Yemincha Hashem, Nedari Bakoach. C'est avec ta main droite, Dieu, que tu nous as montré ta force. Sous-entendu, tu nous as sauvés. Mais Yemincha Hashem, c'est avec la même main droite, Tir Atsoye, que tu as écrasé l'ennemi. C'est-à-dire, c'est la même main droite avec laquelle tu as fait du chesed, et avec la même main droite avec laquelle tu as mis une claque. C'est la même main droite. D'accord?
C'est pas logique normalement.
Eh oui, c'est pas logique normalement. Alors pourquoi on utilise la même main? C'est pour montrer qu'en vérité, à Kadosh Baoru, il fait toujours du chesed. Sauf que des fois, le chesed est camouflé.
Tu veux dire que même par là, c'était un
chesed? Eh ben oui, le fait que tu as pigné, c'était un chesed.
Donc c'est pour ça expliquer les choses.
Voilà. Ça c'est une première explication. Alors, il y a une autre explication aussi, qui dit comme ça, qui dit que pourquoi on répète ici deux fois le mot Yemincha, Yemincha Hashem Nedari Bakoach, c'est pour dire que pourquoi on répète deux fois le mot droite, ta main droite, et la main gauche, on n'en parle pas. Alors, il y a un joli Midrash qui dit comme ça, qui dit que lorsque les Bnei Israël font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, la main gauche d'Akadosh Baruch Hu, qui est la main de la rigueur, elle se transforme en main droite. Et donc du coup, on n'a que des mains droites. C'est pour ça qu'on répète deux fois le mot « ta droite, ta droite ». Il y a beaucoup de jolis midrashim. Ouais. Et il y a des gens qui ont deux mains gauches. Là, on a deux mains droites.
On parle des maladroits. Eh ben, ça vient de ça, le mot maladroit.
On les appelle des gauchers.
On est maladroit. À droite, on est mal. On est gauche.
Tu connais pas ces expressions ?
Non, il y a le mot adroit. C'est pourquoi maladroit ? S'il est maladroit, il est bon alors ?
Non, justement. Il est pas.
S'il est maladroit, il est droit.
C'est exactement le contraire de quelqu'un de gauche.
S'il est maladroit, donc il est droit.
Il est bon à gauche.
Non.
Pas droit.
C'est ce que je viens de dire. S'il est maladroit. À droite, c'est pas bien. S'il est mal à droite.
À gauche, c'est bien. Non, quelqu'un qui est à droite, c'est quelqu'un qui agit.
À droite.
À droite, c'est quelqu'un qui est bien. Mal à droite, c'est quelqu'un qui est
mal.
Mal
à bien. Bon.
À gauche, c'est toujours mal.
Alors là on a deux mains droites. Voilà, c'est comme ça que le Midrash explique. Il dit comme les fils d'Israël font la volonté de Kadosh Baruch Hu, Dieu a deux mains droites. C'est pour ça qu'on dit deux fois Yeminra. Yeminra shenei darevokor, Yeminra shenei tiratsoyev. Ensuite. Uverov, en passant, ça aussi est le Midrash qui explique, il dit que Tirat Oyev, d'accord, en hébreu normalement, si on veut dire que Dieu a écrasé l'ennemi, on aurait dû dire Ra'atsa Oyev, tu as écrasé l'ennemi. Quand on est Tirat Oyev, ça veut dire tu vas écraser, tu écraseras l'ennemi. Encore une fois, donc on a une allusion, que ce sera la même chose que le prochain viendra, etc., etc. Alors, Uverov Gonra Taharos Kamera. Akadosh Baruch Hu, avec ta fierté, avec ta grande fierté, Taharos Kamecha, tu as écrasé ceux qui se sont levés contre toi. Ça veut dire que là, quand on arrive à la mer Rouge, c'est une histoire de fierté. À Kadosh Baruch Hu, on devait défendre le Kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a défendu ce monde. On a senti comment le Kavod d'Akadosh Baruch Hu s'est levé. Les Midrashim expliquent, ils disent que les Bnei Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, des fois ils se posaient des questions. Ils disent, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, on l'écrase tellement, les Égyptiens se moquent tellement d'Akadosh Baruch Hu, et pourtant Akadosh Baruch Hu, on a l'impression qu'il est insensible, il se réveille pas, il fait comme si de rien n'était. Et là, le moment dans lequel les Bnei Israël ont senti que Dieu s'est levé, qu'il leur a dit « Je vous montre que je suis là », c'était maintenant. Encore plus encore qu'en Égypte. Parce qu'en Égypte, c'est vrai que des fois, ils voyaient les plaies, mais concrètement, ils voyaient que les Égyptiens, ils n'écoutaient pas. On n'a pas vu que les Égyptiens sont morts. Le moment dans lequel ils ont ressenti très fort qu'Akadosh Baruch Hu montre qui est le patron, c'est ici. C'est pour ça qu'ils ont dit « Vrov Gonecha, avec ta fierté, Akadosh Baruch Hu, Taharos Kamecha, tu as écrasé, tu as détruit Kamecha, ceux qui sont levés contre toi ». C'est-à-dire que les Bnei Israël ont senti la fierté d'Akadosh Baruch Hu à ce moment-là. Une chose qu'en exil, ça nous manque beaucoup, de sentir la fierté d'Akadosh Baruch Hu, de voir comment celui qui ne suit pas Akadosh Baruch Hu, ça casse. On ne le voit pas. Là, les Bnei Israël l'ont ressenti très fortement. Et ils l'ont dit.
Pendant l'esclavage en Égypte, Akadosh Baruch Hu était Serpanim.
Bien sûr.
Comme
la galoute, c'est sûr. Bien sûr. Dieu se cache. Dieu s'est caché. Là, ils l'ont vu.
Jusqu'à la révélation.
Ils l'ont vu un petit peu en Égypte, mais c'est pas ça encore. Au Diblé. Eh oui, au Diblé, ça a commencé, mais c'est pas ça encore, parce que concrètement. Au Diblé, je veux dire...
Ils ont vu la différence...
Ils ont vu, mais concrètement, après, les Égyptiens, ils refusaient. Ils refusaient, ils disaient non.
Chose, ah bah oui. Ils ont vu quand même les Bnei Israël.
Ils ont vu quelque chose, mais ils n'ont pas vu comment Dieu a réglé l'affaire. Ouais. Dieu n'a pas réglé l'affaire. Non. Il a fait des petits coups par-ci, par-là, mais là, on a vu comment Dieu dit, vous les embêtez, la même mer qui les a sauvés, elle va vous noyer. Là, c'est fort.
C'est radical.
Ça s'est pas passé aux yeux de tous les Égyptiens. C'est passé dans un endroit caché pour eux.
Alors ça c'est écrit que parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas faire de fête quand on tue des vies humaines.
Oui, je comprends. D'accord. Mais les Égyptiens sont restés encore dans tout derrière.
Il restait pas grand chose derrière. Tous les guerriers, tous ceux qui étaient. Ah oui, tous ceux qui savaient se battre, tous les hommes sont venus.
Comme ils sont pas revenus, donc ils sont
pas... D'ailleurs, c'est intéressant parce que je me demande qu'est-ce qui s'est passé après avec ceux qui sont restés. Il restait des femmes, des enfants et
mais
tout.
Mais
qu'est-ce
que c'est que l'Égypte après la continuer quand on regarde
attends,
ça,
y a pas
ça,
oui.
Ça s'est passé il y a 3700 ans.
Oui, ça a continué.
Et mais... on sait que l'Égypte a été.
3300.
Comment ça s'est passé ? Je suis curieux de savoir comment ça s'est passé.
Il y a eu encore l'Égypte à continuer de vivre, c'est-à-dire qu'il y a eu comme une civilisation égyptienne.
Oui.
Tous les hommes n'ont pas couru derrière le.
Les plus forts ont couru. L'élite a couru.
Il y avait combien de chars ? C'est écrit.
Non, c'est écrit. L'élite a couru. Toute l'élite est partie.
D'accord, mais l'élite.
Bah attends, mais il y a la quantité, c'est marqué là.
Non, là, il n'y a pas de quantité là. Là, j'ai dit, pas de quantité. Bon, mais.
Je lui dis, mais.
L'élite, c'est l'élite a couru.
Qu'il y avait 600 chars pour les 600.
Vous savez ce que ça me rappelle ? Ça me rappelle, on dit que le Baal Shem Tov, lorsque la période dans laquelle le Baal Shem Tov était venu, en Ukraine, il y avait un général qui s'appelait Khmelnytsky, enfin, j'ai du mal à prononcer son nom, qui. Dans les quelques années avant, il avait tué tous les pères de famille.
Pour Rome.
dans les pogroms. Mais il tuait que les pères de famille. Il épargnait les femmes et les enfants. Et on s'était retrouvé à une génération, donc c'était le Baal Shem Tov est arrivé, donc c'était quelques dizaines d'années après, dans lesquelles on avait des femmes et des enfants qui se sont éduqués tout seuls. Donc c'est pour ça qu'il y avait très très peu d'éducation, enfin c'était la catastrophe quoi. Il y avait quelques personnes qui savaient étudier, et le reste c'était le peuple, le fameux peuple qui ne savait pas étudier. C'était ça. Donc c'est un peu la même chose. Bon, c'est l'Abdil, hein, mais ça me fait penser à ça quoi. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé avec les Égyptiens ? Ils sont revenus, ils sont tous morts, alors qu'est-ce qui se passe avec les... L'élite est morte.
L'élite.
L'élite, ah oui.
L'élite de l'armée.
C'est ceux qui géraient le pays.
De l'armée.
Mais c'est ceux qui géraient le pays.
Mais non, l'armée, elle gère pas le pays. L'armée,
c'est
pas que
c'est l'armée qui gère le pays. C'est les dictatures. Ici.
Ah bah oui, mais elle gère pas au niveau culturel, administratif, machin.
C'est bon, enfin, peu importe.
L'armée a été décapitée.
On n'en parle plus, d'accord.
Ce qu'il y a en Égypte aujourd'hui, c'est l'armée qui est en train de prendre le pouvoir.
C'est ce que disait une des
esclaves
hébreux qui disait, on retourne en Égypte, elle est à nous, on peut
alors, je reprends. C'est Shalach Aronecha, Dieu tu as envoyé ta colère. Yochlemo Kakash. Yochlemo Kakash, donc il les a dévorés, il les a mangés, Kakash comme de la paille. Vous voyez ce que je vous expliquais tout à l'heure. Une fois, tout à l'heure on a dit la pierre, après là, bien sûr, tu me dis la paille. Là, il y a le Midrash tout à l'heure qui a expliqué, qui a dit que ça dépendait. Il y avait ceux qui étaient comme la paille, et ceux qui ont été s'avèrent c'était soft, et ceux qui étaient comme la pierre, c'était plus dur. Il y a un deuxième commentaire qui explique comme ça, il dit, c'est écrit Yochlemo Kakash. Il dit, il va les manger, Kakash comme de la paille. C'est au futur. C'est pas Achal Otam Kakash. Yochlemo, quand il y a le Yud avant, il va les manger, il les mangera Kakash, il va les dévorer comme de la paille. Alors c'est quoi de quoi on parle?
Des ruminants.
Alors, c'est écrit comme ça. C'est écrit dans Ovadia. Ovadia, il dit que lorsque ma chère viendra, c'est écrit que la maison de Yaakov sera comme du feu. D'accord? Et la maison de Yosef sera comme une flamme. Et les autres seront comme de la paille. Et on va tout dévorer aussi rapidement que le feu dévore la paille. Donc là, le message de la paille, c'est que...
C'est quoi la différence entre la flamme et le feu?
C'est quoi la différence entre eux?
La flamme et le feu.
Le feu, c'est la source. Et la flamme, c'est quand il y a une flamme. Alors, je connais pas votre nom.
Nathaniel.
Baruch Haba, moi c'est Mendy.
J'ai jamais mis les 50 euros dans la boîte avant.
J'ai été
en 10 fois 50 euros. Alors, Yochlemo Kakash, donc voilà, comme je dis, pourquoi il le dit ici au futur, Yochlemo, c'est pour dire que c'est une allusion à ce qui se passera lorsque ma chère viendra, que lorsque ma chère viendra, on n'aura pas le temps de se retourner, et tout ce qui devrait être dévoré sera dévoré comme le feu dévore la paille. Uvroach apecha nehermu maim, nitsevu kemoned nozim. Alors toujours dans la description de ce qui s'est passé dans la... Donc là, on est au passé. De ce qui s'est passé à la traversée de la mer Rouge. Uvroach apecha, avec le souffle de tes narines, Ne'aimu ma'im. Donc vous avez compris que le souffle des narines, de quoi on parle, ça correspond au vent. Donc les Bnei Israël, ils ont dit le souffle des narines à Kadosh Baruch Hu, c'est le vent. Avec le souffle avec le souffle de tes narines, Ne'aimu ma'im, les eaux se sont tassées. D'accord? Se sont tassées. Une arema, c'est une pile. D'accord? C'est-à-dire que les eaux se sont tassées les unes sur les autres. Donc avec le vent, puisqu'il y avait beaucoup de vent, il y avait énormément de vent à traverser la mer Rouge. Nitsevu kemoned nozlim. Ce qu'on a vu également, c'est que les mêmes eaux qui étaient en train de pour les Égyptiens, avec le vent, de partir dans tous les sens, ce même vent, il a été capable de faire cette même eau de l'autre côté comme une muraille pour les Juifs. Ça, c'est extraordinaire. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire que lorsque les Bnei Israël sont passés, on dit que le vent a rendu l'eau comme une muraille. D'accord? Ça veut dire que les gens pensent que la traversée de la mer Rouge, c'est que l'eau est devenue dure comme un glaçon et c'est fini, on est passé. Non, c'est une erreur. C'est
l'eau voulait les noyer aussi.
C'est que l'eau était liquide encore. C'est ça le miracle. C'est un miracle constant. Je vais expliquer ce que je veux dire. Juste deux secondes. Je vais expliquer ce que je veux dire. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous que je dis par exemple que j'ai de l'eau et que l'eau maintenant va se lever. Dieu a deux manières de faire le miracle. Première manière de faire le miracle, c'est qu'il transforme l'eau en glaçon par exemple et l'eau elle tient. Combien de temps a duré le miracle dans ce cas-là?
Le temps de la traversée.
Non. Non.
Non.
Mais non. Le temps de transformer ça en glaçon, il a duré une fraction de seconde.
Parce que tu parles d'un glaçon.
Ah oui. Combien de temps a duré le miracle dans ce cas-là? Une fraction de seconde. C'est la majorité des miracles. La majorité des miracles qu'on connaît, même quelqu'un, Dieu préserve, il est tombé dans un ravin et il est en bonne santé. Combien de temps il a duré le miracle? Une fraction de seconde. D'accord? Là, le miracle de la traversée de la mer Rouge, c'est un miracle constant. Parce que tu touchais, c'était toujours de l'eau et ça tombait pas.
Il y avait un vent, des vents.
Ah oui. Mais alors, c'est quoi le problème du vent? C'est que le même vent qui faisait tourner l'eau pour les Égyptiens, pour les noyer, pour leur faire la machine à laver, ce même vent, il faisait tenir les eaux comme une muraille. D'accord? Mimina ou Mismolam? À la droite, à la gauche, oui.
La mer, elle s'est pas ouverte tout de suite. Le vent, ça a pris du temps pour qu'il perce
oui.
La mer.
Ouais,
ça,
Je veux dire, c'est que le vent, c'est-à-dire, c'est passé par Derech HaTeva un peu.
Bien sûr.
Le vent a soufflé, tellement il a soufflé sur une durée de temps assez longue qu'elle a fini par se couper.
Ah oui, mais bon, on n'a jamais vu un vent qui a fait une muraille.
Ça reste pas normalement.
Ça reste pas.
Pourquoi elle reste debout?
Parce que s'il y a un vent qui tire, un vent qui n'arrête pas, normalement l'eau doit bouger, ça doit être une machine à laver.
Ouais, ça reste pas longtemps.
Ben oui.
Ça va. Là, il est resté debout.
Alors, en plus, le Midrash dit qu'apparemment, les Bnei Israël, eux, ne ressentaient pas ce vent. D'accord? Le Midrash dit comme ça, il dit que les Bnei Israël ne ressentaient pas le vent, et qu'au contraire, Dieu leur a fait pousser des arbres, que et nous, que les enfants venaient se servir des fruits.
Comme ça, souffler des deux côtés, c'est-à-dire c'est un vent qui soufflait des deux côtés. Non, il y avait des murailles de plusieurs
côtés. Si le vent est assez fort,
il est obligé de pousser des deux côtés.
Voilà. Si le vent est assez fort pour faire une muraille, excusez-moi, un homme qui vient avec son poids de, je sais pas, 80 kilos, il s'envole. C'est évident.
C'est quel mot qui est employé pour le mot vent?
Il dit pas le mot vent là, il dit
oui, là,
le souffle de tes narines.
D'accord, mais nous on sait, il parle de Roar.
Oui.
Roar, c'est pas nécessairement un vent, c'est un esprit aussi.
Non. On dit, c'est écrit que le vent a soufflé, Beroar Kadim Azim, Beroar Kadim Azak, oh là là, le vent a soufflé toute la nuit, un vent très très fort toute la nuit. Un vent puissant. Mais la force, c'est que les Israéliens n'ont pas ressenti ça. C'est un vent qui aurait dû les noyer normalement, c'est impossible, comment tu veux tenir? Si t'as un vent qui te fait tenir de l'eau comme
c'est
une muraille.
C'est un vent de tempête.
C'est un vent de tempête, c'est impossible de tenir. Quand vous avez des enfants qui passent, qui servent des fruits dans des arbres qui viennent de pousser. Comment c'est possible?
Tsunami, comme
une
tsunami, la
mer. Abishai, la tsunami.
Tourbillon.
Tourbillon,
oui,
il y a
ça aux
États-Unis
en
ce moment.
Tornade.
Ah oui.
On l'a vu.
Une tornade qui ouvre la mer.
Ah mais ça fait tomber des bateaux.
Il y a eu 250 morts de transport. Des avions qui. Des bateaux qui peuvent s'envoler. T'imagines pas la force.
Est-ce que.
Le dragon,
c'est un dragon. Oui,
toujours. Oui, le dragon, mais il ne sent pas le vent. Même le Derech HaTeva, ça peut exister, qu'il ne sent pas le vent, alors que ça ouvre la mer.
C'est-à-dire qu'avec la force, c'est comme une sorte de muraille.
Je ne crois pas comme Dieu.
Ouais. Parce qu'en plus, vous savez que les Bnei Israël, ils sont revenus à la même rive de laquelle ils sont partis.
Ouais,
ils ont fait un demi-cercle. Ils sont rentrés, ils sont rentrés dans la mer. Ils ont fait un demi-cercle, ils sont ressortis par l'autre côté. Ils ont fait un petit passage à la mer.
Je te dis pas, les Égyptiens, ils étaient dans la mer.
Non, c'est vrai, ils ont fait un peu.
En fait, il y a eu... je sais pas, parce que... Est-ce qu'il y a eu 12... Parce qu'il y a eu des 12 tribus...
13, ouais.
Il y a eu 13, ouais.
13 donc, passages.
Est-ce qu'il y a eu 13 passages, et dans chaque passage, il y avait la mer, un autre passage...
Ah oui,
la mer,
ouais, comme ça,
c'est comme ça que c'est marqué, ouais.
C'est écrit comme ça.
C'est encore plus grand
âge. C'est encore plus grand âge, oui, c'est...
Ils voyaient entre eux.
Non, mais c'est vrai avec l'idée du tourbillon... C'est vrai qu'avec l'idée du tourbillon, ça nous permet peut-être de comprendre un peu mieux. Parce que c'est vrai qu'avec l'idée du tourbillon, on sait qu'il y a des endroits dans le tourbillon où il n'y a pas d'eau. On n'est pas touché par l'eau, on n'est pas affecté ni par l'eau ni par le vent.
C'est vrai qu'il y avait
12 murailles. Personne ?
Je ne sais pas.
C'est le Midrash, raconte comment ça peut être. Ah oui. Midrash, raconte comment ça peut être. Il y avait des enfants, il y avait des bébés, il y avait tout ce que vous voulez. Comment ils peuvent se tenir avec un vent comme ça? C'est impossible.
Il y a des mecs qui ont ouvert des commerces pendant la traversée.
Imaginez l'image de l'enfant comme ça, c'est le Midrash qui dit cette image. L'enfant qui vient, qui se sert d'un fruit comme ça. Ça veut dire qu'il a rien à faire maintenant, tu vois. Il est là, il a tout son temps, il se sert d'un fruit. Et son papa qui lui dit, vas-y mon fils, prends un autre.
Je ne sais pas, il explique que la femme, il donne pas la vie à nous. La vie est un énorme.
Et il nous protège au milieu, on est dedans.
Il y a 64 parachutes.
Et on traverse le milieu. Et autour, c'est le tsunami.
Ce que disaient les Égyptiens, ils étaient dans la neige.
Bon, alors on finit avec ça. Kaf Uteomot Belaviam. D'accord. Donc les. Alors encore, si c'est pour compliquer les choses. Kaf U, ça veut dire ils ont congelé. Vous savez du mot congelé. Teomot, l'abîme, Belaviam au cœur de la mer. C'est-à-dire que pour compliquer les choses, ça c'est encore Rashi qui explique. Il dit qu'Akadosh Baruch Hu a fait qu'il y avait un changement de température constant dans la mer, entre le chaud et le froid. Et ça, c'est la pire des choses. Pourquoi c'est la pire des choses? Parce que le corps, ça c'est le Midrash qui explique, il dit que le corps, il s'habitue avec le temps à une température. C'est vrai, on le voit. C'est-à-dire, tu mets froid, tu mets chaud, bon, on s'habitue avec le temps, même s'il faut, on prend le temps qu'il faut, on s'habitue. Mais quand t'arrêtes pas de changer de température, c'est horrible. On sait que, par exemple, la période dans laquelle les gens tombent en général malades, c'est quand il y a des changements de température. Et là, imaginez-vous que dans le tourbillon, il y avait des changements de température. C'est-à-dire, c'était une fois chaud, une fois froid, une fois chaud, une fois froid, une fois chaud, une fois froid. C'était horrible. Ça, c'était pour faire souffrir les Égyptiens, tout ça. Faire souffrir les Égyptiens, pour leur rappeler le fait que les Égyptiens voulaient tuer les Bnei Israël, et donc ils voulaient prendre leur sang, le sang qui était chaud, et le mettre dans l'eau qui est froid. Donc, à Kadosh Baruch Hu, tout est Mida Keneket Mida. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on peut continuer longtemps comme ça encore. On continue à se prochain de Ratachem.
Kadish.